Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur RTL. On est ensemble jusqu'à 15h30 pour Confidentiel. Une heure pour découvrir la face cachée d'une personnalité. Alors s'il y a bien une personnalité qu'on a le sentiment de connaître par cœur, sous tous les angles, autant dans ses succès que dans ses excès, c'est Johnny Hallyday. Pourtant, vous allez voir que 6 ans après sa mort, nous avons encore des confidences à vous faire sur le taulier. Vous allez le découvrir d'une toute autre manière. Avant d'être le chanteur star qu'il est devenu, Jean-Philippe Smet ne rêvait que d'une chose, devenir acteur. Et il a passé sa vie entière, mêlée à sa carrière de rocker, à assouvir ce désir absolu de cinéma. Des films qu'il regardait en boucle dans son enfance, à ses tournages avec Lelouch, Godard ou Lecomte, en passant par un projet avorté avec Tarantino, toute une partie très intime de son histoire que vous pouvez découvrir dans la grande exposition dédiée aux rockers installée pour 6 mois à Paris. Nous l'avons visitée, vous allez l'entendre avec une guide privilégiée, sa femme Laetitia. Johnny Hallyday fait son cinéma dans Confidentiel. On est le 3 septembre 2002 à Venise. Johnny Hallyday est comme un gosse. Le monstre du rock français trépigne dans le Vaporetto qui l'emmène au Palais du cinéma. Le film dans lequel il joue, L'homme du train, est présenté à la Mostra, le très prestigieux festival de cinéma italien. L'homme du train concourt même en compétition officielle, alors Johnny est surexcité. Je précise que ce n'est pas la première fois que Johnny vient ici à Venise. En 69 déjà, il avait chanté sur cette même scène de la Mostra devant Federico Fellini et les vedettes de l'époque. La mia felicità. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, 33 ans plus tard, il est ici comme star de cinéma. Il est venu avec Laetitia, sa femme, mais aussi Jean Rochefort, avec qui il partage l'affiche, et surtout, Patrice Lecomte, le réalisateur de L'Homme du Train, pour qui Johnny a une immense admiration. Laetitia Hallyday se souvient d'une projection particulièrement émouvante.
Il y a des histoires très touchantes autour de ce film. On est parti à la Mostra de Venise. Donc le film était présenté là-bas. Et pendant la présentation du film, la projection du film, Johnny était assis à côté de Patrice Lecomte, j'étais à sa gauche. Et à un moment, il s'est penché sur l'épaule de Patrice Lecomte et il lui a dit que c'était un des plus beaux jours de sa vie. Patrice était très touché par cette phrase. Et à la fin de la projection, il est allé voir Johnny et il lui a dit « Ce que tu m'as dit pendant la projection m'a ému aux larmes. Toi qui as vécu, qui as fait les plus grands stades de toute la France, qui a fait des tournées où tu rassembles tellement de monde, ce que tu vis, l'amour que tu reçois de ton public, tout ce que tu as vécu dans ta vie, que tu me dis ça, que c'est le plus beau jour de ta vie. » Et il lui a dit merci.
Dans ce train qui me ramène vers toi, dans ce train c'est le plus beau jour pour moi.
Le plus beau jour de sa vie. Oui, il a dit le plus beau jour de sa vie. Il faut dire aussi que le film est très bien accueilli par le public. 20 minutes d'applaudissements à la fin de la projection. Johnny est aux anges. Il est enfin reconnu en tant qu'acteur. C'est un moment qu'il attendait depuis longtemps. L'idole de la chanson française savoure chaque seconde qu'il est en train de vivre à cette Mostra. Réalisons un instant. Johnny, c'est une star. Une star qui remplit les stades, qui est totalement habituée désormais à la liesse du public. Les ovations, ça le connaît. Mais là, celle-ci, celle de Venise, elle a un goût particulier. C'est un rêve secret qui se réalise. Oui, le cinéma, c'est son plus grand rêve depuis toujours. Depuis qu'il se faufilait en douce dans les salles pour contempler ses idoles, James Dean, Marlon Brando ou Elvis Presley.
Il voulait être acteur, Johnny. Il voulait pas être chanteur. Il était fasciné par le cinéma. Fasciné. Il s'est nourri des films qu'il a vus pendant toute sa vie. Et un peu comme Elvis. Hein. Elvis avait ce rêve aussi. Et Johnny était fasciné. Il avait des idoles qui étaient des acteurs. Il avait des rêves, des envies.
Dans son livre Confession, Dans mes yeux, Johnny reconnaîtra même que son destin aurait pu prendre une toute autre tournure. J'étais férue de cinéma, des films américains, avec une préférence pour Elia Kazan. L'un de mes rêves était d'aller à l'Actor Studio. J'adorais la musique, mais si je chantais, c'était pour pouvoir payer les cours du Centre Dramatique de la Rue Blanche. Et puis mon disque a marché, et j'ai arrêté d'apprendre la comédie. Que se serait-il passé si son premier disque n'avait pas fonctionné? Aurait-il continué à chanter? Est-ce qu'il serait devenu une telle légende? Un artiste dont les chiffres donnent le tournis, je vous rappelle. En 57 ans de carrière, Johnny Hallyday a vendu 110 millions d'albums. Il a sorti plus de 80 disques, studio ou live, et il a donné des concerts devant près de 30 millions de personnes. Un monstre, on vous dit. Mais tout au long de cette carrière exceptionnelle, le taulier, comme l'appellent ses camarades, n'a jamais abandonné le cinéma. Sa vocation d'acteur, il l'a même débutée très tôt, dès les années 50, on va le voir. Johnny, avant de nous quitter en 2017, aura tourné dans une cinquantaine de films. L'homme du train donc, Détective, de Jean-Luc Godard, mais aussi L'aventure c'est l'aventure, avec Jacques Brel et Lino Ventura, ou plus récemment, Jean-Philippe aux côtés de Fabrice Luchini, Vengeance, de Johnito, et Rock'n'Roll de Guillaume Canet. L'icône du rock se sera essayée au drame, à la comédie et même au cinéma de genre. Car Johnny, au-delà d'être un acteur, est avant tout un grand, grand cinéphile. Le cinéma, c'est une passion dévorante qui influencera beaucoup sa carrière de chanteur et qui viendra nourrir sa vie au quotidien. Voilà pourquoi la Mostra de Venise de 2002 est une consécration pour l'acteur Jean-Philippe Smet, dont le plus grand rôle, celui de toute une vie, celui qui éclipsera tous les autres, restera sans nul doute Johnny Hallyday, la star à la voix prodigieuse, adulée par tout un pays. Bienvenue dans ce confidentiel exceptionnel consacré à l'acteur Johnny Hallyday.
L'aventure, c'est l'aventure, l'aventure, c'est l'aventure, elle est là, qui vous attend un soir. Pas de pitié, il est trop tard, il faut gagner et oublier.
On est en 1954, dans le 9e arrondissement de Paris. Johnny Hallyday a 11 ans et il s'appelle encore Jean-Philippe Smet. Smet, vous le savez, c'est le nom de son père, Léon, un acteur belge qui a notamment incarné Fantomas avant la guerre. Mais ce comédien, qui est alcoolique et plutôt coureur, aura tout juste le temps de donner son nom à son fils avant de disparaître. Jean-Philippe grandira sans lui. Sa mère, Huguette, trop occupée par sa carrière de mannequin, le confie à sa tante, Hélène, une ancienne actrice de cinéma muet qui a deux filles. Avec ses cousines, qui deviennent un peu ses grandes sœurs, le petit Jean-Philippe est tout de suite trimballé dans cette vie de bohème et de tournée. À 8 ans, il a en guise de babysitter les danseuses au sein nu des cabarets de Pigalle. Jean-Philippe est en effet tout de suite dans le bain. Sa cousine, Desta, s'est amourachée d'un artiste américain qui se fait appeler Lee Hallyday. C'est la première figure paternelle du petit garçon. C'est lui, Lee Hallyday, qui le surnomme Johnny et qui lui offre sa première guitare. Plus tard, c'est donc tout naturellement que Jean-Philippe échangera le patronyme de son géniteur disparu pour celui de ce père de cœur, Hallyday. En cette année 54, donc, sa tante Hélène a repéré une petite annonce pour un casting d'enfants. Le réalisateur, Henri-Georges Clouzot, prépare un nouveau film intitulé « Les Diaboliques ». L'intrigue se passe dans un pensionnat de garçons. Hélène y emmène donc Jean-Philippe, et surprise, il est pris. Le tournage se passe dans un château, dans les Yvelines. Johnny côtoie déjà les grandes vedettes de l'époque, Simone Signoret et Paul Meurice. Il se souvient. « De figurant, je fus même élevé au rang d'acteur. On me confia une réplique pour moi tout seul. » La scène sera finalement coupée au montage, mais Johnny ne sera pas peu fier d'apparaître à l'écran, surtout que le film sera un grand succès. Et Les Diaboliques est aujourd'hui encore considéré comme un classique. Cette première expérience avec le 7e art sera marquante pour Johnny Lado, qui en redemande. Du haut de ses 12 ans, le futur rocker ne rêve déjà que du grand écran. On est en 1959. 5 ans se sont écoulés depuis l'apparition du petit Jean-Philippe Smet dans Les Diaboliques de Clouseau. Jean-Philippe, qui se fait d'ailleurs désormais appeler Johnny Hallyday. Depuis cette première expérience, il est fasciné par le cinéma. Il passe ses après-midi dans les salles obscures à regarder tout ce qui arrive d'Hollywood, quitte à ruser un peu, comme il le racontait à sa femme Laetitia.
Moi, il me racontait que quand il était adolescent, il allait voir des films d'Elvis. Et puis, il n'avait pas l'argent pour se payer une deuxième séance. Donc, il se cachait dans la salle de cinéma pour assister à la deuxième séance. Et ça marchait. Ouais. Et il pouvait voir des films en boucle toute la journée. Toute la journée, il était fasciné. Il s'est nourri de cette passion pendant longtemps.
En bon fan d'Elvis Presley, l'adolescent de 16 ans s'est tout naturellement découvert une autre passion, le rock'n'roll. Cette musique endiablée qui est en train de conquérir l'Amérique. Et en la matière, Johnny a un train d'avance. Son oncle, Lee Hallyday, lui fait envoyer des États-Unis les derniers disques à la mode, Elvis Presley évidemment, mais aussi Bill Haley ou Gene Vincent. Johnny est l'un des premiers en France à les écouter. Il sera surtout l'un des premiers à les reprendre. Depuis un an, il s'est mis à fréquenter le Golf Drouot, ce club à la mode, où les jeunes se réunissent autour d'un jukebox, à l'affût des dernières nouveautés. Mais le Golf Drouot organise surtout des tremplins, où se produisent des apprentis rockers pleins de rêves d'Amérique. C'est là que Johnny retrouve ses copains Jacques Dutronc ou Eddie Mitchell, avec qui il reprend les tubes venus tout droit des US. Et en attendant de jouer dans d'autres films, je vous rappelle, c'est ça qui le fait rêver, pour financer ses cours de théâtre, il chante Elvis, Chuck Berry ou Little Richard. « Je chantais pour me payer mes cours de comédie », raconte-t-il. « Mon obsession, c'était d'être acteur. J'y pensais sans cesse. Je chantais dans des bals, ou au dancing du Moulin Rouge, j'avais juste assez avec mes petits cachets pour aller chez la professeure Marie Marquet et apprendre à jouer sur scène. C'est ce qui m'animait. Et je chantais pour me payer cette ivresse-là. La musique était une passion, mais je n'imaginais pas que ça deviendrait mon métier. Le destin en décidera en effet autrement. Car en 1959, Johnny Hallyday est sur le point d'incarner un nouveau mouvement musical. Le rock'n'roll est en train de déferler sur la France. Le jour de ses 16 ans, le 15 juin, Johnny remporte le tremplin du Golf Drouot. 6 mois plus tard, il passe à la télévision dans l'émission Paris Cocktail. Il y chante Tutti Frutti et Blue Moon, bouge ses hanches comme personne, tombe à genoux, se tortille au sol, vous avez l'image en tête. Pour le public, c'est un choc. Il est immédiatement repéré par une maison de disques, Vogue, et il signe un contrat 15 jours plus tard. Le reste, la suite, fait partie de l'histoire avec un grand H. Nous sommes à l'aube des années 60 et Jean-Philippe Smet, dit Johnny Hallyday, est en train d'écrire sa légende musicale. Pour autant, il entame aussi une carrière en tant qu'acteur. Et la grande aventure du cinéma ne fait que débuter.
Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient. Mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne.
On est en 1961. Johnny Hallyday s'est transformé du jour au lendemain en vedette de la chanson. Le gamin des faubourgs de Montmartre est devenu la fameuse idole des jeunes. Et quand ses milliers de fans à travers la France sont privés de le voir sur scène, eh bien il se replie sur les salles de cinéma pour l'admirer sur grand écran, un peu à la manière d'Elvis Presley en Amérique. À partir de ce moment-là, Johnny incarne Johnny, le chanteur rebelle et rock'n'roll du moment. C'est le cas dans le film Les Parisiennes, où il partage la vedette le temps d'un sketch avec une autre future star, Catherine Deneuve.
Ça ira ?
Formidable.
Je suis si contente d'être utile à quelque chose. Ça m'arrive jamais.
C'est tout de même pas vous qui allez me remercier ?
Si.
Les deux jeunes gens s'entendent tellement bien sur le plateau qu'on leur prête même une liaison, jamais confirmée, nous l'évoquions dans un précédent confidentiel. Johnny chante à la belle une sérénade écrite par Charles Aznavour et qui deviendra l'un de ses plus grands succès, Retiens la nuit.
Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde.
Ce personnage de chanteur pour Midinette poursuivra Johnny tout au long de son apprentissage de comédien. En ce début des années 60, il tourne aussi D'où viens-tu, Johnny ? Et qui joue-t-il ? Un dénommé Johnny Rivière, un jeune homme qui rêve de devenir chanteur, tiens. Mais qui sait aussi monter à cheval pour parcourir au galop les paysages de Camargue, tout en interprétant un autre de ses tubes.
Pour moi, la vie va commencer.
On l'aura compris, les débuts de Johnny au cinéma, c'est d'abord le chanteur à succès que l'on veut, plutôt que ses talents d'acteur. En cela, Johnny restera frustré de ses premières expériences devant la caméra. Il raconte dans le livre « Dans mes yeux » « D'où viens-tu, Johnny ?» a été ma première déception cinématographique. Cela dit, avec du recul, c'était vraiment nul. C'était une sorte de western à la française qui se passait entre Paris et la Camargue. Il y avait Sylvie Vartan, je jouais un jeune chanteur. Bref, un scénario d'une inventivité folle. Pour découvrir Johnny Hallyday dans un premier vrai grand rôle, il faudra attendre le début des années 70 et un film de cow-boy, Le Spécialiste. C'est la grande époque des western spaghetti de Sergio Leone. De la trilogie du dollar avec Clint Eastwood, où Deal était une fois dans l'Ouest, sorti l'année précédente. Tous ces films, ces personnages et ces paysages fascinent notre star française. Surtout que Clint Eastwood compte désormais aussi parmi ses modèles. Dans Le Spécialiste, Johnny incarne Hud, un cow-boy solitaire qui veut venger la mort de son frère.
Comme un vautour, il plane.
Dans son livre Le cinéma de Johnny, Marc Lemonnier raconte que l'idole des jeunes a dû perdre du poids pour avoir un visage plus émacié, qu'il a aussi arrêté de boire et de fumer le temps du tournage. Si ça, ce n'est pas une preuve que Johnny prenait déjà le métier d'acteur très au sérieux, le film attirera plus d'un million de personnes en salle, un succès honorable, dont il signera aussi la bande-son.
Il marche vers le soleil, vers sa destinée. Il marche vers sa mort, vers sa vérité.
On est en 1971 et on propose à Johnny de rempiler dans son propre rôle pour un film. L'aventure, c'est l'aventure. Bon, le scénario laisse a priori songeur. Johnny charge une bande de pieds nickelés d'organiser son enlèvement, histoire d'assurer sa publicité. Sauf que là, c'est différent. Le réalisateur s'appelle Claude Lelouch, auréolé 5 ans auparavant d'une Palme d'Or pour Un homme et une femme. Et le casting est impressionnant. Lino Ventura, Charles Denner et Jacques Brel. Johnny raconte « J'étais heureux de passer du temps avec Jacques Brel, ce mec m'impressionnait. Quel artiste, quel grand artiste. C'est Brel qui m'a donné envie de faire ce métier. Brel pour les textes et Elvis pour la voix. » Sur le plateau, Johnny assume d'être complètement fan de Brel et de Ventura. Il leur aurait presque demandé un autographe, s'amusera Claude Lelouch. Le film sera présenté à Cannes en 1972 et deviendra culte. Mais de Johnny Hallyday, la postérité retiendra surtout la chanson-titre du film.
L'aventure, c'est l'aventure. Elle est pareille à l'amour. Elle est en moi pour toujours, oui pour toujours.
Cette même année 72, Johnny, qui continue à aller beaucoup au cinéma, passion qu'il partage avec ses potes Michel Sardou et Eddie Mitchell, tombe sur le film « Délivrance » de John Borman. Et il reste scotché par cette histoire d'un groupe d'amis qui descend une rivière en canoë, et à qui arrive le pire. Si bien qu'avec Sardou, après avoir vu le film, ils se mettront en tête de partir aux États-Unis pour descendre eux-mêmes le Colorado entre potes. Pendant plusieurs semaines, les deux chanteurs camperont à la Belle Étoile sur les rives de ce fleuve du Grand Ouest américain et accosteront leur radeau chaque soir après des heures de descente. C'est loin d'être l'unique fois où le cinéma inspira Johnny dans la vie comme sur scène. En 1979, il prend encore une claque devant le film de science-fiction Mad Max de George Miller et sa suite, Mad Max 2, le défi, en 1981. Cette vision post-apocalyptique, les costumes en cuir ou en peau de bête, les maquillages, les décors, tout ça lui plaît tellement qu'il crée un show entier sur ce thème. Johnny est fan de Mad Max. En 1982, le chanteur présente donc le survivant au Palais des Sports de Paris. Sur scène, on peut voir des cascades de moto, des combats de haches et Johnny qui chante la fin du monde. Le Johnny Showman tourne déjà à plein régime.
Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne? Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans la rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Pour m'affirmer qu'il y avait du sable et de l'herbe et des pierres et des fleurs et des oiseaux. Alors, ne vous moquez pas de moi.
Cette passion de Johnny pour cet univers cinématographique à la fois sombre et violent ne s'arrêtera pas là. En 1987, la star se voit offrir le rôle d'un pilote de camion futuriste dans Terminus, une sorte de Mad Max à la française. Il s'est coupé les cheveux, pour l'occasion une coupe en brosse, et il a des reflets argentés. Bon, à sa sortie, le film sera un flop monumental et aura rapidement une réputation de nanar. Cet échec calmera d'ailleurs un peu les ardeurs de Johnny avec le cinéma quelques années. Il avait pourtant su s'imposer en tant qu'acteur au début des années 80, chez Costa Gavras notamment, dans Conseil de famille, ou encore avec le chef de file de la Nouvelle Vague. On est en 1984. Johnny Hallyday vit depuis 2 ans avec la comédienne Nathalie Baye. Ils se sont rencontrés sur le plateau d'une émission de télévision et ils ont eu le coup de foudre. Le couple vit près de Paris et vient d'avoir une petite fille, Laura. Ce jour-là, Nathalie Baye doit déjeuner avec le réalisateur Jean-Luc Godard, avec qui elle vient de tourner. Johnny Hallyday l'accompagne. La suite, c'est la star qui la raconte au micro de Philippe Labro en mai 85 sur RTL.
15 jours plus tard, Godard appelle la maison, je tombe sur lui et je lui dis ne quittez pas, je vais vous passer Nathalie. Il me dit non, c'est pas du tout à Nathalie que je veux parler, c'est à vous. Alors je dis ah bon, il dit j'ai vu hier soir votre émission Les Enfants du Rock. Il me dit j'ai trouvé votre interview formidable, est-ce que vous voulez tourner dans mon film? Alors j'étais un petit peu tombé des nues quand même, parce que ça c'est vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas. Je sais que j'avais vraiment envie de faire du cinéma, il était vaguement question à l'époque que je tourne un film avec Maurice Pialla, mais je pensais vraiment pas du tout à Jean-Luc Godard, et j'ai même pas eu le temps de réfléchir dans ma tête, j'ai dit oui.
Avec Détective, Johnny Hallyday change de registre. Fini le chanteur qui joue dans des films avec Godard, il est enfin pris au sérieux en tant qu'acteur. La star déclare même « il fallait briser le mythe ». Séparer mon travail au cinéma du show business. Je considère Détective comme mon premier film. Face à Claude Brasseur et Nathalie Baye, il donne le change et il crève l'écran par sa présence. Ce film, Détective, c'est un tournant dans sa carrière de comédien. Contre toute attente, une vraie relation se crée entre ces deux grands taiseux que sont Johnny et Godard. Pendant le tournage, le metteur en scène ne tarit pas d'éloges sur les talents d'acteur de Johnny. Il demande même à Claude Brasseur de s'en inspirer. Et en 98, quand l'Académie des Césars veut rendre hommage au réalisateur d'À bout de souffle et du Mépris, eh bien c'est Johnny Hallyday qui lui remet son César d'honneur.
Now since my baby left me, I find a new place to dwell. Down at the end of Lonely Street,
Il faudra attendre les années 2000 pour revoir les yeux bleus perçants de Johnny dans des rôles à sa mesure. Dans Love Me, de Laetitia Masson, il incarne Lennox, un vieux chanteur dépassé qui se produit dans des casinos de bord de mer, quand il rencontre une jeune femme, Sandrine Kiberlin, qui lui redonne le goût de vivre. Johnny y est plus vrai que nature, en particulier quand il reprend à la guitare acoustique des standards d'Elvis.
Love me tender, love me sweet, never let me go.
Le film dont Johnny sera le plus fier arrive en 2002. C'est L'homme du train, dont on parlait au début. Face à Jean Rochefort, le réalisateur Patrice Lecomte lui a confectionné un rôle sur mesure. Laetitia Hallyday se souvient de leur rencontre.
Il a rêvé de tourner avec Patrice Lecomte, il a été au bout de son rêve. On a rencontré Patrice Lecomte lors d'une cérémonie des Césars. Johnny remettait un César d'honneur à Godard. Et Patrice Lecomte était en coulisses et Johnny est allé le voir et il lui a joliment dit cette phrase qui est restée dans notre mémoire, celle de Lecomte et la mienne. Il lui a dit qu'il était très heureux de le rencontrer et il lui a dit un jour j'aimerais bien être filmé par vous. Puis après on a eu une soirée au Fouquet's. On s'est retrouvés au Fouquet's pour le dîner des Césars. Et pendant le dîner des Césars, il y a un coup de foudre qui s'est passé entre eux. Et il lui a tapé sur l'épaule et il lui a dit « Tu penses déjà à un film pour nous ?» Et puis quelques mois après, Patrice Lecomte lui a envoyé le scénario de L'homme du train. Il avait tellement peur de ne pas être à la hauteur. Il était comme un enfant avec des peurs. Il était très traqueur, que ce soit pour le cinéma ou la musique. Mais je le faisais répéter. Il était hyper scolaire dans son travail. Et il avait tellement envie qu'on le reconnaisse en tant qu'acteur.
Avec L'homme du train, Johnny Hallyday a véritablement assouvi sa soif de cinéma. Le film est un succès critique. Il est présenté à la Mostra de Venise. Mais surtout, il vaut à Johnny Hallyday le prix Jean Gabin, une récompense décernée chaque année à un espoir du cinéma français. Johnny a beau filer sur ses 60 ans, il vit cette récompense d'espoir comme une consécration. Presque un demi-siècle après ses débuts dans les Diaboliques, le voilà enfin reconnu par la profession. À partir de là, le cinéma de Johnny Hallyday sera un grand terrain d'amusement, une grande aire de jeu. Il n'hésite pas à faire preuve d'autodérision, le plus souvent entouré de complices, comme dans Jean-Philippe de Laurent Tuel. L'histoire à elle seule vaut le détour. Dans un monde où Johnny Hallyday n'existe pas, Fabrice Luchini, qui lui est fan absolu du rocker, le vrai, celui qu'on connaît, se met en tête de retrouver Jean-Philippe Smet et d'en faire la star qu'il doit être. Johnny incarne un double de lui-même très touchant. Le film est un hommage à l'homme, autant qu'à l'icône. Derrière le personnage de Jean-Philippe, qui doute, transpire des moments de grâce, où jaillit là encore son immense talent de chanteur.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie. Rêvons-nous avec ces mots à lui, quelque chose de Tennessee.
On est en juillet 2008, à Los Angeles. Quentin Tarantino est en plein casting de son prochain film, Inglourious Basterds. Johnny Hallyday vit avec toute sa famille dans la Cité des Anges. Les deux hommes se connaissent. La star française est un inconditionnel des films du réalisateur de Pulp Fiction. La simple idée de tourner avec lui, évidemment, le fait rêver. Alors quand il apprend que Quentin Tarantino a pensé à lui pour ce projet qui se passe en France pendant la Seconde Guerre mondiale, il est tout excité. Sauf que quand il reçoit le scénario à son domicile américain, c'est un peu la désillusion. Laetitia Hallyday raconte.
Je pense qu'il était fier de sa carrière d'acteur, donc il n'y a aucune frustration. La frustration, c'est parce que c'est qu'il est parti trop tôt et qu'il avait encore il y a des rendez-vous manqués. Mais il était très fier de tout ce qu'il a fait au cinéma. Et il y a un film qu'il a pas accepté parce que le rôle était trop compliqué et trop douloureux pour lui. Tarantino lui propose un rôle dans son film Inglourious Basterd. Sauf que le rôle, c'était le rôle de celui qui dénonce les juifs, et il a pas assumé. Il a refusé et il a pris son téléphone, il lui a expliqué pourquoi et il a compris. En même temps, il trouvait ça honnête de la part de Johnny, mais il était hyper flatté. Le scénario est présenté dans l'expo avec la note de son agent qui lui dit que Tarantino le veut dans son film. C'est une jolie histoire. J'avais besoin de la raconter parce que Johnny l'a jamais raconté.
Ce projet avec Tarantino ne se fera donc pas, mais donne à Johnny l'envie de se tester dans des films de genre. Parmi tout ce qu'il aime, parmi tout le cinéma qu'il regarde, Johnny a aussi une passion pour le cinéma asiatique. Alors il accepte avec joie de tourner Vengeance, de Johnito à Macao. Son personnage, c'est un ancien truand, en proie avec les triades chinoises. Il fait penser au samouraï de Melville avec Alain Delon, que Johnny adorait. Ce choix révèle là encore la grande cinéphilie de Johnny. Et ça paye. Vengeance est considéré par beaucoup comme l'un de ses meilleurs films.
My daughter. My grandchildren. Venge-moi.
Dans les années suivantes, le taulier retrouve ses complices Claude Lelouch et Eddie Mitchell pour un film choral, Salaud on t'aime, qui donne l'occasion aux deux monstres de la chanson française de pousser la chansonnette devant un vieux western, Rio Bravo, une scène plus vraie que nature. Et ils n'hésitent pas à plaisanter de leurs prestations. On ne chante pas bien dans le film, c'est normal, on n'est pas chanteur. Enfin, l'une des dernières apparitions de Johnny à l'écran, en 2017, c'est une nouvelle fois dans son propre rôle. Guillaume Canet lui écrit une caricature de lui-même. On y retrouve les petits détails de sa vraie vie à Marne-la-Coquette et de sa relation avec Laetitia.
Guillaume est un ami, et quand il nous a proposé à tous les deux ce rôle, où on joue nos propres personnages dans la vie, mais écrit avec beaucoup d'humour. Et c'est des anecdotes en plus qui sont vraiment réelles, puisque Johnny, il a un problème avec les noms. Il ne se rappelait jamais des prénoms. Et Guillaume, il l'a souvent appelé par un autre prénom. La cigarette et la bouteille de vin que je cache, ça c'était ma vie.
Une vie partagée avec humour sur grand écran, mais pas si loin de la réalité des dernières années. Le chanteur est malade, il souffre d'un cancer. Au fil du temps, Marne-la-Coquette est devenue son refuge. C'est là, dans l'intimité de cette maison et en famille, qu'il aimait regarder encore et toujours des films. Sa passion du cinéma, de tous les cinémas, toute sa vie, il tiendra à la transmettre à ses filles, Jade et Joy. Le soir, quand elles rentraient de l'école, le chanteur aimait même leur montrer des films d'horreur.
Il aimait se faire peur, il adorait, il était fasciné par ça. Fasciné, passionné de films d'horreur. Il a tellement transmis ça à Jade et Joy qu'elles sont en demande aujourd'hui, et je suis incapable de regarder un film d'horreur avec elles. Quand leur papa est parti pendant le confinement, quelques années après, pendant le confinement, elles ont voulu revoir un film d'horreur qu'elles avaient vu avec leur papa avant qu'il s'en aille. Il s'appelle Last Train to Busan. Mais Johnny avait adoré ce film. C'est l'histoire d'un papa et de sa petite fille. Elles m'ont demandé de le revoir avec elles pendant le confinement. J'avoue que je l'ai fait, mais on était en larmes toutes les trois. Le film fait terriblement peur, mais c'est parce que c'est un lien avec lui, c'est le dernier film qu'elles ont vu avec lui. J'avais pas mon mot à dire. Puis Johnny, on pouvait pas lui dicter quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il leur apprenait à ne plus avoir peur.
Johnny Hallyday est avant tout connu pour son immense carrière de rocker, c'est sûr. Il est pourtant impossible de parler de lui intimement sans parler de cinéma. Le 7e art a été son premier rêve, il l'a réalisé et il a même été fier de son parcours d'acteur. Souvenez-vous, la Mostra de Venise, le plus beau jour de sa vie. Dans ses dernières années, Johnny se réfugiait donc dans son bureau ou dans sa salle de projection avec sa collection de DVD. Plus de 1700 titres qu'il aimait partager avec ses enfants. Comme si avant de partir, on l'a dit, il devait absolument leur transmettre cette autre passion, en plus de la musique. C'est là, dans ce bureau de Marne la Coquette, qu'il s'éteindra le 5 décembre 2017, à l'âge de 74 ans. La nouvelle tombe en pleine nuit. C'est Georges Lang, le monsieur musique d'RTL, qui a la lourde tâche de l'annoncer à l'antenne. Il n'est alors pas seul à qui les mots manquent. À leur réveil, des millions de Français resteront eux aussi sans voix, en apprenant que celle de leur idole, l'immense Johnny Hallyday, ne résonnera plus jamais de son vivant.
Bonsoir, on est tous sous le choc. Les mots nous manquent, ça on ne sait plus quoi dire, parce que on pensait que ça n'allait pas arriver. On pensait tous que Johnny avait cette force incroyable et qu'il allait se battre fuck ce cancer, comme il le disait. Et malheureusement, ce soir, cette nuit, la nouvelle est tombée.
Johnny Hallyday nous a donc quittés cette nuit.
À 74 ans, il est mort chez lui, dans sa maison de Marne-la-Coquette, tout près de Paris. Il y était rentré il y a 2 semaines après une nouvelle hospitalisation pour insuffisance respiratoire. Et c'est son épouse, Laetitia, qui a annoncé la nouvelle.
C'était d'arriver ici devant son portail et puis lui dire au revoir sans même le voir. Ça me fait drôle dans les jambes. Mais ça me fait drôle. Je vous assure, je voulais montrer à mes enfants que je pouvais venir ici. Je voulais montrer à mes collègues aussi que je pouvais le faire. Lui dire au revoir.
Dans la grande exposition consacrée à Johnny, qui a pris ses quartiers à Bruxelles, puis à Paris, ce bureau de Marne la Coquette est là, reconstitué à l'identique. On y découvre tout le mobilier dans lequel la famille vivait et tous les effets personnels du rocker, des guitares, des photos, des bandanas, des papiers en vrac, tout y est. Je suis face au bureau avec Laetitia Hallyday, 6 ans après la mort de son mari. Et l'émotion, vous allez le voir, est presque quasi intacte.
On passe ce plan pour entrer dans un lieu particulier. J'aimerais que ce soit vous qui nous le racontiez, Laetitia.
Alors, on arrive à la, la fin du voyage de sa vie à travers cette expo. C'est le bureau.
Le bureau où il est parti. De Marne-la-Coquette.
Le bureau de Marne-la-Coquette. C'est là où il est parti. C'est les vrais objets, c'est pas de la reconstitution.
Donc là, on précise que ce qui était dans la maison, vous l'avez évidemment récupéré, gardé, et vous avez accepté de l'offrir à son public derrière cette vitrine.
Reconstruit à l'identique, avec les vrais objets.
Donc on peut raconter un petit peu, il y a beaucoup d'objets dans ce bureau, mais en vrac, évidemment, on voit des guitares, on voit des ceintures, on voit des foulards, des photos. Il y a une platine, voilà, tout ça raconte.
C'est à l'intérieur, il y a encore les odeurs, c'est bouleversant d'émotions. C'est la partie certainement la plus intime de l'exposition. Il y a rien qui a changé. C'est comme si on avait pris le lieu et on l'avait posé ailleurs.
En toute sincérité, Laetitia, c'est toujours aussi difficile d'être devant ce bureau ou ça va mieux? Comment vous vous sentez?
Oui, c'est toujours aussi difficile.
Ça fait 6 ans.
C'est toujours aussi difficile.
Qu'est-ce que vous ressentez là?
En plus, c'est l'endroit où il est parti. Donc, on avait installé un lit avec les enfants dormaient par terre, on dormait sur des matelas. Mais je préfère me rappeler des moments les plus heureux qu'on a vécu dans ce bureau. C'est un bureau qui rassemblait beaucoup. Johnny passait beaucoup de temps.
Qu'est-ce qui se passait dans ce bureau?
Alors, il y a beaucoup de moments en famille, beaucoup de moments de création aussi.
Ouais.
Il y a beaucoup d'artistes ou de compositeurs, des auteurs qui sont venus travailler dans ce bureau avec lui.
Vous parliez de moments en famille. C'était quoi, justement, le Johnny pantoufle, peignoir? C'était quoi, le quotidien?
Il adorait prendre cette guitare qui est au fond.
Ouais.
Et il prenait sa guitare et il jouait des morceaux de guitare aux enfants.
Il était habillé comment? Il aimait bien porter des choses assez confortables. En jogging.
Voilà. Pas
comme
du
à la
tout. Il a enlevé son habit de rocker. Ouais, ouais. Et à la maison, il était en jogging avec des pantoufles. Ouais. Et ça peut paraître fou. Il détesterait que je dise ça. Mais,
temps, ça nous rassure un peu.
Voilà, mais c'était... Ouais, oui, c'était un papa.
Il prenait cette guitare là-bas au fond et il se mettait à jouer, à chanter. Les filles racontent qu'il chantait tout le temps.
Ouais, il chantait tout le temps
à la maison.
Et les filles ont ce qu'il, la plus belle chose qu'il a laissée aux enfants, c'est les souvenirs avec elles et les souvenirs de ce qu'il a partagé avec elles. Et c'est vrai que la musique était quelque chose qu'il partageait beaucoup avec les enfants. Puis le cinéma, la gastronomie aussi. On a partagé beaucoup de on a transmis à nos filles comment bien se nourrir, comment bien manger, apprécier les bons produits.
Mais il y a quand même une machine à pop-corn.
Oui, alors ça, c'est l'Amérique.
Voilà.
Ah, mais après.
Il regardait ses films comme un Américain avec des pop-corn.
Ah, tu peux regarder un film sans pop-corn. Ouais.
Sucré ou salé?
Salé. Il n'aimait pas le pop-corn sucré.
Pop-corn salé.
Ouais,
comme
c'était
ça.
Comme pop-corn salé.
Il y
comme
avait une
la
marque
chanson
de pop-corn particulier.
Non, alors non. Après le maïs, après, c'est nous qui le veut.
Vous les faisiez tout seul à la maison. Joy dit qu'elle est toujours très émue quand elle quitte le bureau de Marne la Coquette parce que elle a peur à chaque fois que ce soit la dernière fois. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir, ça, Laetitia?
C'est douloureux de l'entendre et en même temps c'est bien qu'elle arrive à le formuler et qu'on arrive toutes les trois à partager aussi ces étapes de la vie. On n'a pas le choix que d'apprendre à vivre sans lui, que d'apprendre à vivre avec ce deuil et avec beaucoup de résilience. Mais c'est quitter cette maison parce qu'on sait qu'on va devoir la quitter. Parce qu'on peut pas la garder, parce qu'on, y a des choses à régler, beaucoup de choses à régler que Johnny nous m'a laissé, que j'essaye d'être à la hauteur
de ça
pour régler tous ces problèmes avec l'administration fiscale française.
Ouais.
Mais c'est des étapes de la vie. Je pense qu'il faut savoir aussi tourner des chapitres. C'est un chapitre douloureux à tourner. Mais peut-être ça va nous permettre aussi de nous reconstruire et d'avancer.
Elle vous demande d'en parler de ces moments-là avec elle.
Oui. On parle de tout. J'ai vraiment.
On sent qu'il y a vraiment pas de secret entre vous.
Non, il y en a jamais eu. Il y en a jamais eu. De leur adoption à aujourd'hui, il y a jamais eu de secret. On a toujours tout partagé avec elle. Ça, c'était un choix aussi de Johnny de tout partager avec elle.
Après, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, mais c'est mon interprétation. J'ai l'impression quand même qu'il y avait un good cop, bad cop dans les parents. Johnny, c'était le papa cool.
Moi, je suis pas la cool. Moi, je suis pas du tout la cool. Ah non, moi, j'étais pas cool. Moi, j'étais hyper raide.
Ah, c'est ça.
Je suis toujours.
Je l'ai un peu senti.
Je suis toujours. Mais je suis obligée, parce qu'il fallait bien qu'il y en ait un qui ait le mauvais rôle.
Tranquille, elles allaient voir papa.
Mais c'est pas grave. J'assumais mon mauvais rôle. Je l'assume encore aujourd'hui. Mais puis ça crée du respect aussi. Puis j'aime beaucoup comment mes filles en parlent.
Et elles disent que Jade, c'est plutôt vous et Joyce et Johnny, c'est ça? Dans le tempérament?
Oui. Ah oui, dans la ressemblance.
Dans la personnalité.
Joy, c'est un tempérament de feu comme son père. Elle a du caractère, du charisme. Ouais. Elle a un caractère aussi fort que son père. Mais d'ailleurs, des fois, je dis, mais sors de ce corps. C'est juste. Elle a tellement pris de son papa. Et Jade, elle est un peu plus comme moi. Ouais. Elle me ressemble beaucoup.
Plus apaisée.
Ouais, on est plus. C'est une vieille âme. Mais elle est sensible comme sa sœur. Joy est très, très sensible, très pudique, mais avec un fort caractère.
J'ai été très touchée par l'interview qu'elles ont donnée, je dois dire, par leur maturité. Et aussi, évidemment, je vous pose la question, Laetitia, parce que c'est quand même assez... c'était très fort, les mots qu'elles ont utilisés sur David et Laura. Vraiment, c'est des mots... elles parlent de trahison, elles parlent d'abandon, et on le sait à quel point le mot abandon dans votre famille est quelque chose de fort. Elles disent... on a un papa en commun, mais en fait, on n'a rien en commun. Je les ai notées, c'est des phrases hyper fortes, hyper puissantes. Vous le saviez qu'elles allaient dire ça? Juste expliquez-moi, vous en aviez parlé avant ensemble. Comment ça s'est déroulé, finalement, cette façon de se libérer de ces choses qu'elles avaient à l'intérieur d'elles? Parce que clairement, c'est la première fois qu'on les entend parler comme ça.
Oui, ça
elles l'ont décidé toutes seules, vous en avez parlé ensemble. Comment
elles ne connaissaient pas les questions, elles avaient besoin de Jade, elle va avoir 20 ans bientôt, Joy va bientôt avoir 16 ans. C'était un besoin pour elles. Parce les gens, évidemment, elles n'ont pas une vie qui est ordinaire.
Oui.
Mais elles en sont conscientes, mais à la fois, elles avaient besoin besoin d'exprimer. Les gens les jugent beaucoup, mais ne les connaissent pas. Et personne ne peut vivre ce qu'elles ont vécu. Personne ne peut parler à leur place. Personne ne peut dire, ne peut juger sans connaître ce qu'elles ont vraiment vécu avec leur papa ou depuis que leur papa est parti. Et ça a été une étape salutaire pour elles d'exprimer, enfin que les gens les voient telles qu'elles sont.
Oui, elles vont bien là maintenant que c'est dit.
Elles vont bien.
Oui, il n'y a pas de contre-coup.
Bien. Non, au contraire, elles sont très apaisées. Et qu'on les, voilà, elles me disent, maman, mais on a besoin de un moment de dire les choses qu'on a au fond du cœur.
Elles disent quand même, on pense qu'on leur pardonnera jamais.
Alors moi je leur apprends beaucoup à pardonner.
On parlait du pardon tout à l'heure.
Je leur apprends beaucoup parce que je pense que c'est on peut pas vivre sa vie avec de la rancœur ou de il faut à un moment donné s'ouvrir au pardon et accepter aussi de recevoir parfois le pardon.
Ça sera peut-être.
Mais j'espère. Mais c'était important pour elles de formuler des choses et de.
C'est leur vérité,
c'est ce qu'elles ont vécu. Donc personne peut leur dicter qui elles sont ou c'est important pour elles d'exprimer ça. Et c'était le bon moment. Elles en sont fières et ce qui m'a beaucoup touchée c'est l'amour qu'elles pour leur papa et ce chemin du deuil pour elles.
Joy dit à la fin d'une interview qu'elle a donnée, pour le coup c'était pour Match, c'était pas sur TF1, mais peu importe, en tout cas dans ce moment où elles se sont exprimées, elle dit « Je pense que maman n'est toujours pas sortie de son deuil 6 ans après. » Elle a raison ?
Elle a raison. J'apprends, j'essaye d'avancer, mais c'est un long chemin. C'est un long chemin, le deuil. Oui, ça va. C'est un très très long chemin. Accepter aussi que Johnny ne reviendra pas, accepter de vivre sans lui.
Est-ce que ça ne vous rassure pas d'y rester un petit peu, pour le garder un peu encore?
Oui, c'est ce refuge-là.
C'est ça.
C'est un refuge pour moi, Johnny. C'est mon refuge, c'est mon histoire, c'est mon refuge, c'est un... Et pour moi, c'est comme s'il était toujours là, mais
d'une autre manière. Avec un jour, quand même, peut-être.
Mais il faut que j'arrive à me sortir de ce refuge, quand même, pour arriver. Parce que il faut que Johnny devienne ma source d'inspiration plus qu'un refuge. Parce que si je reste ancrée dans ce refuge, je n'arriverai jamais à être heureuse. Parce que je vis avec ce sentiment de culpabilité, d'être heureuse sans lui ou d'être amoureuse sans lui. C'est la vie qui me l'a pris.
J'ai pas divorcé.
Je porte toujours mon alliance. C'est la vie qui vous prend l'être aimé. Et vous devez apprendre à vivre avec parce que vous n'avez pas le choix.
C'est encore une histoire de pardon. Pardonner à la vie de vous avoir pris votre amoureux.
Puis on était tellement liés. C'était pas qu'un mari pour moi. J'étais pas que sa femme. Ouais. Donc on était deux âmes liées. Espèce de cœur relié à quelqu'un. Et quand il s'en va, le monde s'arrête de tourner. Tout s'écroule. On perd tous ses repères. Parce que mes seuls repères dans la vie, c'était mon mari. Je vivais, je respirais pour lui. J'étais très, très soumise à lui. Et j'aimais ça. Vivre pour lui, c'était ma façon d'exister.
On le disait, c'était une autre époque.
J'étais dans l'ombre. Ouais. Ne plus être dans l'ombre de mon mari, ça me fait souffrir encore aujourd'hui. Donc pour être vivante, j'ai toujours besoin
Ne plus être dans l'ombre de mon mari, ça me fait souffrir, surtout en 2023. Vous seriez capable d'être la même femme avec un autre homme, soumise
Je pense qu'on peut pas. Je pourrais jamais comparer ma vie que j'ai eue, puis j'ai eu la chance de le vivre. J'étais toute jeune, j'avais 19 ans quand j'ai connu mon mari. Il est parti, j'en avais 42. C'est toute une vie. J'ai grandi avec lui.
Oui, vous étiez encore très jeune.
J'ai appris de lui.
42 ans.
On s'est tellement sauvés.
On a encore toute une vie devant soi quand on a 42 ans.
Je sais, mais c'est pas une vie ordinaire, quoi. Ouais. C'est pas. C'est 1000 vies dans une vie avec un être qui est pas ordinaire, qui est juste extraordinaire. C'est personnage quand même à part Johnny, avec sa part d'ombre, sa part de cet être cabossé, compliqué quand même.
Et puis il continue à nourrir, j'ai l'impression, vos filles, parce qu'elles ont toutes les deux, j'ai l'impression, la volonté de travailler dans l'artistique.
Oui.
Ça vous va, ça? Ça vous inquiète pas trop, après la vie que vous avez
vécue? Je me doutais que la transmission était essentielle. Joy, c'est une chanteuse ouais, incroyable. Et puis, elle joue la comédie divinement bien. Ouais. Elle est dans une troupe de théâtre à Los Angeles. Elle joue de la guitare merveilleusement bien.
Vous êtes bonne pour repartir sur une vie artistique avec vos filles.
En tout cas, je suis heureuse qu'elles puissent, qu'un jour elles atteignent leur rêve. C'est ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants aussi, l'estime d'eux-mêmes, l'estime de soi.
Bien sûr.
Dans cette vie, dans ce monde chaotique dans lequel on vit. Si on transmet aujourd'hui à nos enfants d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se respecter, d'apprendre à être tolérant avec, avec les autres et d'être tolérant avec eux-mêmes, c'est déjà un chemin de gagner.
Elles ont pris déjà des sacrées leçons avec le papa qu'elles ont. Autre projet, peut-être un biopic sur Johnny Hallyday. S'il y avait un film, quel serait votre acteur préféré pour jouer le rôle de Johnny? Laetitia. Dans la jeune génération d'acteurs.
Qui s'appelle Mathias Chenard.
Ah, très bien.
Ouais,
qui ferait un bon Johnny Hallyday.
Ouais. D'une époque. Mais
D'une époque. D'ailleurs, il en faudrait probablement plusieurs.
Il plusieurs Johnny.
Ouais.
Mais oui, ça, c'est un rêve aussi. C'est un rêve aussi. Parce que c'est une vie à part. C'est 74 ans d'une vie. Et quelle vie Et quelle vie hors norme. Hors norme, fantastique. Enfin, il n'y a pas d'autre vie comme lui, comme la sienne.
Un message.
Il n'y aura pas d'autre Johnny.
Un message au public qui va rentrer dans cette expo, dans ce manche de guitare pour s'immerger dans un monde à part. Un petit conseil, le conseil de Laetitia pour vivre au mieux cette exposition hors norme.
Prendre son temps. Prendre son temps.
Ça, c'est un bon conseil.
Prendre son temps et profiter du moment présent. Profiter de chaque pièce sans. Ouais, faire un voyage dans sa vie et apprendre encore, apprendre de lui. Je crois que c'est dans ce voyage qu'elle expose.
Sachez que vous avez encore plein de choses à découvrir.
Vous allez encore apprendre de lui, de l'être qu'il était, de encore plus on va en plus profondeur de son âme et de l'être qu'il était. Mais prendre son temps, écouter le guide et vous laisser guider, vous laisser porter. Voyager avec lui, parce qu'on a l'impression qu'il est là. C'est continuer à le faire vivre, continuer à l'aimer, continuer à apprendre de cet être extraordinaire.
Merci beaucoup.
Merci
Laetitia.
Merci à toi, Ophélie.
Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel Johnny Hallyday. Merci à l'équipe qui m'accompagne. Réalisation signée Dany Matouk. Texte de Thomas Pierre. Production et programmation de Marie-Caroline Mandon. Vous retrouvez tous les autres épisodes de Confidentiel en podcast sur l'appli RTL ou sur rtl.fr.
RTL. Confidentiel.
Confidentiel.